Radio Okapi. Parité et famille. Bienvenue dans Parité et Famille qui s'intéresse une fois de plus à la question sur les violences sexuelles, un sujet qui fragilise des familles et des communautés entières. Quelle sensibilisation pour quel résultat? C'est la question majeure que nous nous posons dans ce magazine qui s'intéresse aux questions liées au genre et aussi à la famille. Nous aborderons aussi des mécanismes mis sur pied pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur les genres et aussi comment contribuer à la prévention et à la réduction des violences sexuelles et ainsi améliorer la prise en charge des victimes. Encore une fois, bienvenue dans Parité et Famille. Rendons-nous au Nord Kivu. C'est depuis 13 ans que l'association Ubakajiwa Tesajama entendait les viols affectent les familles encadre plus de 50 femmes victimes de viols. Nous sommes à Kanyabayonga, plus de 150 km au nord de Goma, en territoire de Lubero. Seulement, la prise en charge psychosociale de ces femmes et leur réintégration sociale posent problème. Gisèle Kaj a rencontré il y a quelque temps à Kanyabayonga certaines d'entre elles. Je vous invite à suivre leurs témoignages et les cris des détresses de l'organisation qui les encadre.
Cela fait environ 10 ans déjà qu'elle a vécu un viol dans son champ. Cette femme, que nous nommerons Marthe, continue à subir le traumatisme de cette violence 10 ans après.
Le problème que j'ai, c'est parce que j'ai un mari. Il est au courant de ce qui m'est arrivé. Nous ne sommes plus en bon terme. Si je sors de la maison, dès que je rentre, il m'attaque me disant que je suis encore allé me faire violer. J'ai tout le temps peur et rien ne va plus dans mon foyer. Mon mari ne me donne plus la ration comme avant. Je suis là, mais pas heureuse. Je crois que la peur ne me quittera jamais.
Elle n'est pas la seule à vivre cette situation. Cette autre femme que nous appellerons Bénite avait été aussi violée dans son champ il y a 15 ans et c'était en présence de son mari qui lui malheureusement a été tué.
Je perds tout le temps, je ne peux pas rester seule sans une autre personne à mes côtés. Je ne peux pas non plus sortir la nuit. Je ne sais pas ce que je peux faire pour nourrir mes 10 enfants, car j'ai toujours peur.
Et pour mettre les femmes à l'abri de ces viols dans les champs, l'association Ubakajiwa Tesajama a trouvé une astuce. Madame Katunga Petronil, responsable de l'ONG, explique.
Nous comptabilisons au moins 10 femmes ou bien 20 pour qu'elles aillent travailler un chat d'une maman pour éviter le viol. Après cela, l'autre jour, elles iront chez une autre maman et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles font. Oui. Et les fruits de ces chats seront pour la femme-là qu'on a aidée à travailler. C'est pour elle.
Et ça marchait et les conditions socio-économiques des victimes s'améliorent. D'après elle toujours.
C'est beau comme ça, puisque avant, c'était les catastrophes. Les femmes étaient tellement vulnérables, de façon que la femme ne trouvait même pas un panier. Mais pour le moment, avec ce système, les mamans sont bien.
Mais ce qui pose le plus problème, c'est l'accompagnement psychosocial de ces femmes. Pas de psychologue pour le suivre, alors que l'association manque de moyens financiers pour élever le niveau de vie des victimes. Madame Katunga Petronil.
Il n'y a pas de psychologue, sauf que l'Afrique nous a formés pour détraumatiser. C'est cette matière-là que nous utilisons pour la détraumatisation.
Une femme qui a été violée il y a 15 ans, et depuis, elle n'a jamais oublié, elle a tout le temps peur. Est-ce que vous ne pensez pas que ça nécessite finalement que ce soit un psychologue qui fasse le suivi?
Lorsque nous analysons, c'est surtout le manque de réinsertion. Mais si elles font des activités comme tout autre, ça doit passer. Mais lorsque elle voit quelqu'un jouer avec 100 dollars, 200 dollars, elle n'a rien. Ces activités, c'est toujours les activités chambêtres. C'est là où le traumatisme ne diminue pas.
Ubakajiwa Tesajama lance donc un SOS aux bienfaiteurs qui voudraient bien leur venir en aide.
Alors, où en est-on avec la sensibilisation sur les violences sexuelles? Michel Kifinda s'est entretenu avec Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État congolais chargée des questions des violences sexuelles. Elle nous fait l'état des lieux de la lutte contre les violences sexuelles en RDC et aussi les actions menées depuis 2014.
Je crois que c'est une question qui vient un peu à nommer parce que ça fait quand même depuis 2014 que le bureau a été créé suite à l'accord de coopération technique qui existe entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Près de 4 ans après, il est important de dire où nous en sommes. Alors la mission du bureau, c'est de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes et de lutter contre le recrutement des enfants dans les groupes armés et donc la question des conflits et de la position de la femme et de l'enfant dans les conflits est une question qui n'est pas accessoire, qui n'est pas banale, qui n'est pas théorique quand on connaît l'histoire de la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est. Alors qu'avons-nous fait depuis lors? Outre un plaidoyer, une visibilité, une voix publique, une parole publique institutionnelle plus forte sur ce que tous les acteurs de la société civile, des institutions de la République font pour lutter contre ce fléau, nous avons eu quelques actions phares au niveau de notre bureau, notamment la campagne Briser le silence, qui invitait toutes les personnes victimes de violences sexuelles à dénoncer. Alors, ça a l'air banal de le dire aujourd'hui, mais quand vous reliez à ce qui est fait aujourd'hui aux États-Unis où on dit dénoncer celui qui vous a malmené, vous avez vu à Hollywood, il y a toute cette campagne où des actrices disaient avoir été violées par des producteurs de films pour pouvoir sécuriser leur carrière. Et ben nous au Congo, on n'a pas attendu ça. On a eu notre campagne Briser le silence depuis 2014. Et donc ça c'est une action phare. À côté de ça aussi, nous avons remarqué que le viol est un événement délicat qui touche à votre intimité et les personnes traumatisées veulent en plus, ce qui est normal de par notre culture, garder un certain secret sur le corps de la femme, fut-il même violenté. Et donc dans ce cadre-là, nous avons pensé avec nos 22 millions d'abonnés que nous avons en RDC, avoir un système d'alerte rouge par téléphone qui permet à toute personne, où qu'elle se trouve en République démocratique du Congo, de dénoncer les cas de viol de personnes de son entourage. Et donc c'est ainsi que nous avons lancé le numéro vert 122 qui est dédié donc à la dénonciation des cas de violences sexuelles. Et depuis très récemment, suite à un travail très actif de mon équipe que je remercie ici, nous avons pu coaliser, mobiliser, fédérer toutes les compagnies de télécommunications, Africell, Airtel, Orange et Vodacom, pour qu'elles fassent la publicité sur ce numéro. Et nous leur demandons de continuer, parce que ce numéro peut sauver des vies. Alors, Airtel est le premier des 4 opérateurs à avoir rendu le numéro gratuit depuis très récemment. Donc, en cas de viol dans votre quartier, d'une personne que vous connaissez, un voisin, un membre de famille, une amie, quel que soit l'auteur, fut-il riche, haut gradé, civil, militaire, enseignant, médecin, ministre, n'hésitez pas à appeler le numéro 122. Ça, c'est une de nos actions phares. La deuxième action après la campagne Briser le silence et le numéro gratuit 122, c'est aussi quand même de se dire que les Congolaises que j'ai rencontrées partout, vous savez, elles ont un courage extraordinaire. Bien sûr, il y a eu cet accident de parcours du viol, mais elles ne veulent pas rester au bord du chemin. Et donc, elles nous demandent de les aider à se relever. Et c'est comme ça qu'avec notre équipe, notre expert genre particulièrement, nous avons mis en place des programmes d'autonomisation, de réinsertion économique des femmes victimes de violences. Et en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle, nous avons testé en version locale congolaise des programmes de formation des femmes. C'est des femmes qui sont dans des mondes ruraux et à qui on demande qu'est-ce qu'il te faut pour redémarrer, qu'est-ce qu'il te faut pour continuer sur le chemin malgré cet accident, et elles répondent des cours d'alphabétisation, des cours de mécanique, des cours de boulangerie, des cours de couture, des cours d'agroélevage, et nous avons tenté ça d'abord en cas pilote avec 75 personnes à Kibumba, et puis nous l'avons étendu à Rutshuru avec plus d'un millier de personnes, toujours autour de l'INPP, et aujourd'hui nous sommes en train de l'appliquer en Équateur, notamment à Bumba. Mais prochainement, ça s'étendra à Lissala. Ça, c'est ce que nous, État congolais, ou mon bureau, via les fonds du président de la République, qui est dédié sur ces questions, avons alloué pour réinsérer, autonomiser les femmes et les enfants victimes de conflits.
Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État congolais, chargée des questions des violences sexuelles, au micro de Michel Kifinda. Retournons à Goma pour parler d'une autre campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles. C'est celle de l'organisation Freedom House. Lancée depuis près de 3 mois, cette campagne sera bientôt clôturée. La sensibilisation a réuni des dizaines d'étudiants venus des différentes institutions autour du slogan « Un homme respectueux ne viole pas, il respecte les femmes ». Karpat Etulinabo, chargée des communications de la campagne, revient sur cette sensibilisation des étudiants dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Un jeune, il doit comprendre que la violence sexuelle, c'est un problème que nous avons dans la société et que chaque jeune doit s'abstenir pour qu'il ne puisse pas être appelé violeur. Parce que aussitôt qu'un jeune peut être attrapé, qu'il a commis le viol, automatiquement, il doit savoir que sa place, ce n'est plus dans la société, mais c'est juste en prison. C'est pour cette raison que nous avons réuni les jeunes étudiants aujourd'hui pour leur parler des conséquences de violences sexuelles pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent sensibiliser d'autres jeunes et qu'eux-mêmes puissent être des bons citoyens.
Cette campagne qui a commencé depuis 3 mois est presque à sa fin. Quels sont les grands résultats auxquels vous êtes arrivés?
Aujourd'hui, c'est notre 3e activité avec les jeunes étudiants. Tous les jeunes qui venaient toujours dans nos activités, à la sortie de l'activité, ils prenaient l'engagement d'aller sensibiliser d'autres personnes et à eux-mêmes de devenir d'abord des bons citoyens et des personnes qui vont commencer à combattre les violences sexuelles dans la société.
Et la campagne n'a pas concerné que les jeunes?
Oui, la campagne n'a pas concerné que les jeunes. Hormis les jeunes, nous avons réussi à réunir 150 personnes, hommes et femmes, mariés de la ville de Goma, qui ont aussi participé dans des causeries éducatives pendant les 3 séances que nous avons organisées. Mais aussi, nous avons réuni 25 autorités politico-administratives, là où nous avons discuté avec eux sur les jugements rendus mais non exécutés en matière de violences sexuelles. Et aussi, à leur tour, ils ont pris l'engagement que non, ils doivent tout faire pour que les victimes de violences sexuelles aient réparation.
Ici à Kinshasa, l'ONG Oxfam, en collaboration avec son partenaire, les réseaux des femmes chrétiennes du Congo, a organisé au mois de mai dernier une conférence de presse dans le cadre de la clôture de la campagne de sensibilisation du projet d'art social Bongote Tika. Entendez, ne fais pas ça, arrête. Une campagne qui visait à sensibiliser les populations de Kinshasa sur les violences faites aux filles et aux femmes. Raphaël Mboui, directeur des provinces ouest d'Oxfam RDC, nous donne les bilans de ce projet au micro de Jody Daniel Nkashama.
Le bilan il est très positif en ce sens que l'objectif premier était de faire une différence en produisant un outil de sensibilisation basé sur l'art social, le théâtre, pour sensibiliser la population contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc cet objectif-là est atteint. Il était prévu également dans le cadre de ce projet pilote de faire 80 représentations spectacles sur terrain et d'atteindre au moins 40 000 personnes directement. Donc nous sommes à 69 représentations et 32 000 personnes atteintes directement. Donc nous sommes très satisfaits du résultat. Et quand nous voyons l'engouement que la question a suscité, donc nous pensons que le travail a été important et il est également ici de continuer avec le travail.
Est-ce que le projet va continuer ou bien il s'arrête là?
Nous sommes dans cette phase-là de réflexion sur la meilleure approche de continuer le projet, c'est-à-dire d'utiliser cet outil que nous venons de mettre en place, qui est Bongote Tika, comme pièce de théâtre, qui est en fait le carrefour de plusieurs actions concernant les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc nous sommes dans cette perspective-là de la continuation du programme.
Le Canada a financé ces projets d'art Bongote Tika à hauteur de 300 000 dollars canadiens. Outre ce projet d'art social, Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC, a aussi annoncé au cours de cette conférence de presse que pour capitaliser sur les résultats, un montant de 18 millions de dollars seront débloqués pour élargir ce projet. On l'écoute.
Le bilan est excellent. C'est un projet pour nous qui est très innovant parce que c'est un projet qui utilisent des moyens non traditionnels pour faire un travail de développement. Donc, si on utilise le théâtre comme art de transformation sociale pour rejoindre les populations. Et en très peu de temps, on a rejoint beaucoup de gens ici à Kinshasa, au-dessus de 32 000 personnes directement et plus de 120 000 indirectement, pour un très petit projet qui est un projet pilote en fait, et qui vise à vraiment utiliser une méthode de cueillette de mots, de rédaction, de transformation à travers l'art pour influencer un changement, pour lutter contre les violences sexuelles en RDC.
Et qu'est-ce qui a motivé le Canada à financer ce projet?
Pour le Canada, grande priorité au niveau du développement aujourd'hui, c'est de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça inclut la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Donc, on a tout de suite reconnu que c'était un projet très, très porteur pour cet agenda. Et on était aussi en bonne compagnie avec des partenaires de grande qualité. On a souhaité financer ce programme à travers notre programme d'appui aux partenaires canadiens.
Et le financement était de quelle hauteur? Est-ce que vous allez continuer à financer?
C'était un financement qui était de l'ordre de 300 000 $ canadiens. Donc c'est un petit projet pour le Canada. Mais comme on l'a dit, c'est un projet qu'on veut maintenant inscrire à l'intérieur d'autres projets qu'on a ici en RDC sur la lutte contre les violences. J'ai annoncé quand j'étais à la conférence de Genève récemment un nouveau projet de lutte contre les violences sexuelles qui sera basé non seulement dans l'est du pays mais aussi à Kinshasa avec le PNUD et le UNFPA. Et on va voir comment on peut capitaliser sur les résultats de ce projet à l'intérieur du plus grand programme avec le PNUD et UNFPA qui est de 18 millions de dollars.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Capi et nous parlons aujourd'hui dans Parité et Famille des violences sexuelles avec comme question majeure, quelle sensibilisation pour quels résultats? L'ambassadeur du Canada en RDC l'a dit tout à l'heure, 18 millions de dollars vont être débloqués pour capitaliser les projets des luttes contre les violences sexuelles. Ce projet qui s'étend sur 5 ans, soit 2018-2023, sera piloté par les PNUD, l'UNFPA et les BCNUDH. André Kambala a approché les coordonnateurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kananga. Moussa Ouoba nous explique comment sera répartie cette enveloppe, les critères des provinces retenues et ce qui sera fait sur terrain.
C'est un projet géré par le PNUD, le FUNIAP et le BCNDH intitulé « Lutte contre les violences basées sur le genre, justice, autonomisation et dignité des femmes et des filles en République démocratique Congo ». Je voudrais préciser que ce projet est le fruit des efforts de trois organisations que j'ai citées qui ont obtenu un financement du Canada à hauteur de 18 millions de dollars canadiens pour financer un projet de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences sexuelles de manière générale dans la République démocratique du Congo.
Toute l'enveloppe, c'est pour la République ou pour l'espace Kasaï?
Non, c'est pour la République démocratique du Congo dans son ensemble, mais je dois préciser qu'il y a des provinces qui ont été ciblées. Je veux dire Kinshasa, le Kasaï central, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu.
Et quels sont les critères de choix de ces provinces?
Les critères, c'est essentiellement lié au travail de documentation que nous faisons dans ces provinces où, au cours de ces dernières années, nous avons enregistré beaucoup de cas de violences sexuelles basées sur le genre.
Oui, le mot lutte contre les violences sexuelles, cette expression-là est générique. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement?
Je voudrais d'abord préciser que le programme a pour objectif principal de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre à travers l'adoption d'attitudes et de normes socioculturelles respectant l'égalité des sexes, le renforcement du pouvoir et de la résilience des survivantes à travers une prise en charge holistique et le renforcement de la coordination au niveau national dans une perspective d'appropriation nationale. Donc pour me résumer concrètement, ce programme a près trois volets. Le premier volet, c'est de mener des activités, des campagnes de sensibilisation, des ateliers de formation, de sensibilisation à l'endroit des leaders traditionnels, des autorités, de toutes les parties prenantes de la société, pour faire en sorte qu'on puisse changer les comportements, les attitudes qui tendent à accorder une place à la femme qui n'est pas la sienne.
C'est pour quelle période, pour l'application de ces projets?
Donc, je disais tantôt qu'il y avait cette phase de sensibilisation et de formation. Il y a une phase de prise en charge des victimes de violences sexuelles holistiques. Il y a une prise en charge médicale, psychosociale, mais aussi une partie judiciaire que le BCNUDH gère particulièrement. Je disais que c'est un projet de 5 ans, 2018-2023.
Autre action à mener pour accompagner les victimes, c'est celle de l'UNICEF qui a lancé au mois de mai dernier le projet d'assistance aux victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. Dans cet entretien avec Gabrielle Wamenia, Fatoumata Ndiaye, directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, répond aux questions spécifiques liées au lancement de ce projet et réaffirme l'engagement de l'UNICEF à accompagner les 10 projets.
Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le témoignage des femmes. Je dis des femmes, mais c'est des enfants, parce que quand les choses se sont passées, c'était toujours des enfants. Vraiment, ça m'a brisé le cœur de voir l'impact de la conduite intolérable de certains des membres du personnel des Nations Unies. Quand on les voit, quand on les entend, ça brise le cœur. En même temps, ça donne vraiment l'ampleur de leur courage, hein, l'ampleur de leur volonté de sortir de la situation dans laquelle elles vivent et d'avoir une vie digne. Donc ça, c'était vraiment pour moi la réalisation de notre volonté, de l'obligation de faire en sorte que la conduite du personnel des Nations Unies, des troupes qui nous accompagnent, soit irréprochable.
Vous avez demandé pardon au nom des Nations Unies devant les victimes, et pourquoi?
Mais parce qu'elles ont été victimes des conduites d'abus sexuels, des conduites de viol, des conduites d'exploitation du personnel des Nations Unies et des troupes qui contribuent au travail des Nations Unies. Il n'y a pas d'autre mot pour elles. Il faut qu'on leur demande pardon.
Un plaidoyer vient d'être fait par les gouverneurs du Nord Kivu pour initier d'autres projets similaires dans d'autres agglomérations affectées par ces phénomènes. Comment pensez-vous y parvenir?
Oui, je pense que la MONUSCO, elle travaille beaucoup avec les communautés. L'UNICEF travaille avec les communautés, la FNUAP travaille avec les communautés et notre mission, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement dans le travail d'apporter la paix, la stabilité et aussi le bien-être aux communautés. Donc c'est un travail qu'on a commencé, c'est un travail qu'on va continuer. Le travail de fond de réparation d'aujourd'hui, on espère qu'on n'aura plus de cas de violence sexuelle, mais c'est un travail qu'on va continuer de faire en appui aux communautés.
Ce projet concerne seulement les femmes victimes des violences sexuelles. Qu'en est-il des enfants aussi issus des viols?
Les enfants issus des viols sont aussi suivis. Hein. On les suit à plusieurs niveaux. Et l'UNICEF en particulier donne l'appui aux enfants. On leur donne l'appui psychosocial, parce qu'il faut bien sûr, il y a un dommage psychosocial. Donc on essaie de les aider avec ça. On a des experts qui nous accompagnent. Et on essaie aussi de les mettre dans le système médical. On essaie autant que l'on peut de les remettre dans le système éducationnel, que les enfants aient une autre chance. Donc ça, c'est notre responsabilité primordiale et on a accompagné tout le processus de SIA, ce qu'on appelle SIA, en donnant le support aux enfants au nom de la communauté des Nations Unies.
Il y a d'autres enfants dans d'autres territoires du Nord Kivu qui ne sont pas nécessairement issus des viols, mais ils sont affectés par les violences sexuelles. Actuellement, l'UNICEF envisage d'autres projets pour essayer de venir en aide à ces enfants vulnérables.
L'UNICEF, elle s'occupe en premier des enfants les plus défavorisés, les enfants qui sont les plus difficiles à atteindre. Bien sûr que nous sommes dans ces communautés. S'il y a des enfants qui sont dans des communautés éloignées, qui n'ont pas de soutien, l'UNICEF sera là. C'est vraiment notre mandat. Notre mandat, c'est d'aller vers ces enfants-là et de leur apporter le soutien. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons avec l'appui, en soutenant le gouvernement, parce que le gouvernement a l'obligation en premier.
Autrefois considérée comme capitale du viol, la RDC a bénéficié en 2016 d'un prix pour les efforts fournis en matière de lutte contre les violences sexuelles. Je vous invite une fois de plus à suivre Janine Mabunda qui, je le rappelle, est représentante personnelle du chef de l'État congolais chargé des questions des violences sexuelles. Elle nous dit en quoi consiste ce prix et quels sont les résultats obtenus jusqu'ici.
Alors, au-delà du prix, c'est un prix qui nous a été donné à Monaco, hein, le prix pour un monde meilleur. mais au-delà du prix, parce qu'on n'est pas à la recherche, c'est pas comme si on faisait une compétition, mais je pense qu'il était important de dire au reste du monde qu'il y a peut-être beaucoup d'amalgame sur la RDC. Ce qu'on dit sur la RDC d'habitude, c'est on parle de la RDC qui est en guerre, quand bien même il y a 146 territoires dans ce pays et que c'est la partie est du pays qui est souvent l'objet de soubresauts, mais tout le reste du pays est quand même relativement calme. Je viens de faire 350 kilomètres sur la route Guémena à Koula. Ça m'a pris 1h30. Il y a 4 ans, ça nous faisait 6 heures. Et donc, je n'ai rencontré aucun coupeur de route. Je suis vivante. Donc, il est important de dire aussi que dans notre pays, des choses normales se passent. Et donc, nous voulions que cette image de la RDC, cette perception d'un pays mutilé, d'un pays en guerre avec ses voisins, en guerre entre lui-même par des politiciens éventuellement, etc., que cette image cesse, parce que finalement, cette prédominance de l'image politique troublée n'est peut-être pas vraiment le révélateur des 80 millions de Congolais que nous sommes. Et donc, ce que nous avons essayé de dire, en luttant contre les violences sexuelles et en luttant contre le recrutement de nos enfants par des miliciens ou par des politiciens véreux, c'est de dire que nous allons construire la paix ensemble. Et nous allons construire cette paix ensemble par une conversation sérieuse et des actions sérieuses sur les violences sexuelles. Tant et si bien que dans nos réalisations, effectivement, nous avons, au-delà du prix, été quand même honorés par des résolutions des Nations Unies, deux de suite, en 2016 et en 2017, qui disaient que la RDC a fait des efforts exemplaires et méritoires dans ce travail de lutte contre les violences sexuelles. Nous avons en 2016 l'ancienne représentante spéciale sur ces matières aux Nations Unies, Madame Bangoura, qui a salué les efforts fournis et les progrès réalisés par le bureau du représentant et ses partenaires, et qui a dit que nous sommes arrivés à réduire de moitié les cas de viol enregistrés. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Bangoura. Nous sommes passés de 15 352 cas de viol à 7 751 cas de viol dans cette année-là. Ce sont des chiffres qui ont été recueillis par des ONG indépendantes et la MONUSCO. On cite la MONUSCO, le HR et le FNUAP, et ils ont été rendus publics par les Nations Unies en 2016. Elle a encore dit que avec ces avancées, le combat que nous menons contre les luttes pour lutter contre les violences sexuelles fonde la RDC un laboratoire d'expérimentation, des expériences réussies et des modèles à partager avec les autres nations du monde. Nous avons aujourd'hui un pays comme la Centrafrique qui nous consulte sur les questions de violences sexuelles. Nous avons aujourd'hui des pays voisins qui s'interrogent sur les méthodes et les modalités d'application de notre programme de lutte contre les violences sexuelles. Dans les réalisations aussi, parce que ce n'est pas nous qui le disons et ce n'est pas des plaidoyers de propagande, le 5 octobre 2017, la RDC, son armée, a été radiée de la liste noire des pays dont les forces armées recrutent et entretiennent des enfants soldats dans leur rang. Alors, en termes de retrait, dit la résolution qui nous enlève, qui nous radie de la liste, en termes de retrait, les FARDC ont pris toutes les mesures nécessaires dans leur plan d'action. Aucun nouveau cas de recrutement d'enfants et d'utilisation par les FARDC n'a été documenté. Ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'exprime dans son rapport. Donc, je tiens vraiment à dire que quand nous faisons état, nous, Congolais, État congolais, citoyens congolais, des progrès et des avancées que nous avons faits dans ce combat contre les violences aux femmes et contre les violences et le recrutement de nos enfants par les milices armées, eh bien, ce sont d'autres qui reconnaissent aujourd'hui nos progrès. Avant, nous étions pointés, je crois, comme la capitale du viol. Je crois qu'on est passé de capitale du viol à un pays qui peut servir d'exemple à d'autres. Je crois que nous sommes aussi un des pays dans la région qui a accepté d'adopter un programme de coopération technique avec les Nations Unies. C'est pas une chose banale que la RDC, qui est quand même sortie d'un conflit très douloureux, puisse prendre le leadership d'adhérer à un programme avec les Nations Unies, de dialoguer constructivement avec la MONUSCO. Vous savez que notre dialogue avec la MONUSCO, par exemple, sur le maintien de troupes de la paix est beaucoup plus difficile, mais sur les questions de violences sexuelles, nous avons eu une discussion constructive qui nous a amené à ces résultats-là, qui sont ceux de la RDC, mais aussi nos partenaires, je cite ici ONU Femmes, le FNUAP notamment, qui nous ont accompagnés, mais aussi certaines coopérations bilatérales qui sont là et qui ont un regard favorable, je pense pense à la France, je pense à la Grande-Bretagne. Il ne faut pas seulement nous aider avec de l'argent, mais on nous aide avec des exemples, on nous aide avec de l'assistance technique, des médecins, des avocats. Nous avons des avocats français qui nous aident aujourd'hui pour arriver au résultat où nous sommes.
Ainsi prend fin Parité et Famille, consacrée aujourd'hui à la sensibilisation et les résultats obtenus jusqu'ici sur les violences sexuelles. Merci à toute l'équipe de Gma, Gisèle Cage, Rosalie Zawadi et Gabriel Wamenia, André Kambala et Michel Kifinda ont aussi participé à la production de ces magazines, mis en onde par Jean-Claude Siala. Je suis Thérèse Kankou, au revoir et à la prochaine.